Alors, on continue le cours, donc, l'histoire des Anshei Knesset HaGdoula. Alors, j'ai expliqué les 24 livres qu'on appelle Kitvei HaKodesh. Maintenant, il faut bien comprendre. Quelle est la différence entre Kitvei HaKodesh et quelque chose qui n'est pas Kitvei HaKodesh? Vous ouvrez aujourd'hui n'importe quel livre, un livre d'histoire ou de philosophie ou de morale ou de Picsou, bon, ne parlons pas de ça. Bon, n'importe quel, ou le Havdil et Elef Alfi Havdalot, mille millions de différences entre Kitvei HaKodesh. Alors, il faut bien mettre dans la tête. Kitvei HaKodesh, ce sont des livres qui sont vrais, absolument vrais, dans le fond, dans les idées, dans la philosophie et dans les histoires qui sont marquées dedans. On peut manger du poison dessus. Ça veut dire, chaque histoire qui est marquée dans Chumash, qui est marquée dans la Tanakh, c'est une histoire telle qu'elle se passait comme la Tanakh nous raconte. Ça veut dire, les dates, les lieux, les personnages sont des personnages véridiques et les prophètes ont écrit ces livres après d'avoir vérifié que c'est comme ça. Et les prophètes sont des gens qui ne mentent pas. Un homme qui ment n'est pas prophète.
Alors,
quoi?
Alors, quoi?
Attendez, le prophète Iov, c'est un livre, d'après certains Chachamim, est une image. Tous les autres sont des vraies histoires, ça c'est une image. Le livre Kohelet, ce n'est pas une histoire. Quand je dis l'histoire est vraie, c'est quand il y a une histoire dedans. Donc, par exemple, dans le livre Kohelet, il n'y a aucune histoire dedans. C'est que des idées abstraites. Michelet, c'est des moralités. Il n'y a pas d'histoire dedans. C'est écrit. Alors, d'après un avis de la Gemara, c'est une discussion philosophique habillée dans une image d'un récit qui n'est pas vrai. C'est que pour Iov. Je dis, en dehors d'Iov, tous les autres récits dans le Tanakh, ils se sont passés tels quels. Et un prophète ne ment pas. Les tzadikim, les chachamim, la chose qu'ils détestent le plus dans la vie, c'est de mentir. On ne ment pas. Donc, ils ont écrit les histoires qu'ils ont vérifiées. Est-ce que David Melech, il a agi comme ça, ou il a fait comme ça, il a pensé comme ça, et Shlomo, il a dit comme ça, ce roi, il a fait comme ça. Les prophètes, ils ont vérifié exactement, et il y avait Ruach HaKodesh dessus pendant qu'ils ont écrit. Maintenant, on dit qu'il y a trois catégories, Torah, Nevim et Ketuvim. Ce sont trois catégories. Pourquoi? Torah est dictée par Hachem. L'écriture est dictée par Hachem mot par mot. Tu écris Moshe, Bereshit, écris Bereshit, Bet, Resh, Aleph, Shin, Taf. Ça, c'est la Torah, les cinq textes que Hachem il a dictés. Les prophètes, Hachem n'a pas dicté le texte à écrire. C'est la majorité des choses sont des discours. Le Yesha Yirmiya Cheskel Kachem, il a mis dans la tête du prophète un discours. Après, le prophète, il a parlé ce discours. Après, il a écrit. Il y a dans les livres du prophète un peu d'histoire aussi dedans pour comprendre le contexte du discours. Les prophètes, ils disaient de la moralité qu'Hachem leur a mis dans la tête Benevoie. Ils ont dit ces prophéties et il y a un peu d'histoire autour pour comprendre le contexte. Maintenant, il y a le livre de Shoftim qui s'appelle aussi Nevi'im. Malgré que ce sont majoritairement histoires, mais c'était écrit par des Nevi'im qu'Hachem, il avait donné de Nevoie à eux et ils ont tout écrit pour Ruach HaKodesh. Ça veut dire, Ruach HaKodesh, c'est une inspiration divine qui leur fait comprendre que c'est ça qu'ils doivent écrire. Et Ketuvim, c'est aussi la majorité, c'est des histoires et écrit aussi par des gens qui ne sont pas, il y en a un qui n'est pas Navi. Daniel, d'après un avis de la Gemara, il n'était pas Navi. Amachlok, il était Navi, ou seulement Baal, Ruach HaKodesh. Ezra Nechemia a été écrit par Ezra. Un de ces là parmi eux, il y avait des Ruach HaKodesh, Nevi'im. La Megillat Esther était écrite par Mordechai et Esther, qui sont deux Nevi'im. Et dans Kitvei HaKodesh, chaque mot, il y a dessus une Ruach Kedusha. Ça veut dire, il y a aussi des allusions, toutes sortes d'allusions, même pour le futur. Dans tous les Kitvei HaKodesh, comme il y avait de Ruach HaKodesh quand ils ont écrit, les Nevi'im, ils ont écrit ces textes, il y a un sens, de faire un double sens, un triple sens. des allusions pour le passé, pour le futur. C'est pour ça que de chaque mot, on peut déduire beaucoup de choses. Alors, dans la Torah, par exemple, quelqu'un qui étudie la Gemara, mais vous avez aussi déjà entendu ça, mais chaque Bachour qui étudie à la Yeshiva, on voit que la Gemara, Chachamim, de chaque mot et de chaque virgule et d'un vav ou d'un tav, on déduit plein de halakhot. Je donne un exemple. Il y a un mot de trop dans la Torah. Dans ce pasuk, ce mot, il est écrit deux fois. D'après, on aurait pu épargner. Et c'est un peu lourd, le texte. C'est parce que ça cache une drasha. C'est-à-dire, ça cache une loi de la Torah Shebalpé. Ou ça cache une histoire, ou ça cache une idée, ou ça cache une halakha. Donc, on voit que ça veut dire chaque mot de la Torah est examiné à la loupe. Pourquoi ce mot, il est ici, il n'est pas au début des pasuk? Pourquoi le pasuk commence singulier et finit avec pluriel? Pourquoi il commence avec pluriel? Il commence avec féminin et finit avec masculin. Donc ici, il y a un halakha qui est caché, que grâce à la déduction, ces choses-là, ils sont répondues. Il y a plein de halakhot, des milliers de halakhot transmis, et des histoires transmises qui se trouvent cachées dans le texte quand on l'analyse bien. Ça, c'est pour le navire, c'est moins que la Torah. Dans la Torah, c'est les paroles directes. Dans le Nevi, c'est un peu moins. Mais il y a aussi bourré de dvarim de Kedusha dans le Nevi. Mais c'est moins que la Torah. C'est pour ça, quand on a un chumash, on a un Nevi, et on veut les empiler, on les empile comment? Chumash sur le Nevi, mais on ne met pas un Nevi sur le chumash. Torah, Nevim ou Ketuvim. Torah, c'est plus chashuv, parce que c'est, ça, c'est mamash, les paroles qu'Hashem a dictées. Donc, c'est bourré avec des significations en dehors du pshat. Le pshat, il est vrai, et mikra yasene pshuto, mais il y a encore plein d'autres choses dans ce texte. Alors, ça c'est Kitvi HaKodesh. Maintenant, si nous voulons connaître des sources historiques maintenant, notre cours, c'est un cours d'histoire. Nous voulons connaître l'histoire, alors en dehors de la moralité et de la prophétie dans les Kitvi HaKodesh, les Kitvi HaKodesh, c'est une source inépuisable de phénomènes historiques et les choses les plus sûres. C'est-à-dire, si vous trouvez un livre Goy de l'époque de Tanakh qui raconte un événement un peu, ça ressemble un peu à la Torah, mais raconte un peu différemment. Et vous allez avoir un doute sur qui je vais m'appuyer. Sur un écrivain babylonien de l'époque des Yeshaya Hanavi qui raconte aussi la guerre des Juifs avec, mais raconte un peu un autre endroit ou une autre année, et je vais avoir un doute. Alors, qui se trompait? Alors, il faut savoir que les écrivains Goy, sachez ça pour tout. Un écrivain Goy, pour lui, il n'a pas d'interdiction de mentir. Ça n'existe pas. Les écrivains Goy, il n'a pas d'interdiction. Le lot de chaque roue de ne pas rouler, ça n'existait pas pour un Goy. Et ça existe que pour les Juifs qui sont tzadikim, chachamim, kedoshim, et les prophètes. Eux, ils ont interdiction de mentir. Ça, c'est une chose, et pas seulement mentir. Ils sont des gens sérieux qui vérifient les choses, que ce qu'ils racontent est juste. Les goyims sont souvent des copieurs. Les goyims sont souvent des gens qui ont écrit sous pression. Les écrivains, ils étaient souvent payés par le roi pour arranger l'histoire. Ils ont entendu des choses, oui, dire, et on écrit. On a entendu comme ça, il écrit, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il y a un phénomène que chez les écrivains Goy, on trouve plein de contradictions. Qu'est-ce que vous dites?
Mais les Juifs, ils n'ont pas le droit d'écrire des histoires fictives, quoi.
Des histoires fictives? Et les faire passer au nom de la Kedusha, au nom de Dieu?
Non, mais par exemple...
Vous pouvez écrire un roman, c'est votre droit, écrivez un roman, ce que vous voulez.
Il y a des éditions juives qui sortent des romans inspirés de la Seconde Guerre mondiale.
Vous pouvez écrire, mais surtout ne dites pas que c'est des vraies histoires.
Oui,
mais le Tanakh, c'est des vraies histoires. Le Tanakh nous raconte la vérité. Ce n'est pas inspiré. Ce n'est pas inspiré par... Bien sûr, vous pouvez inventer un roman, mais ne dites pas que Dieu vous a dit et ne dites pas que c'est vrai. Et si vous écrivez au début, tout ce que je raconte, c'est vrai, c'est faux, eh bien, après ce jour, vous êtes une menteuse. On n'a pas le droit. Vous romancez. Alors, beaucoup de choses sont romancées. Il y a un peu des bribes qui sont vraies. Et d'ailleurs, tous les historiens Goy ont romancé leurs trucs. La majorité, en tout cas, ou toute majorité. Il y a un fond qui est vrai. Il y avait quelque chose là-bas, un roi qui a fait. Et après, quand il y a des choses honteuses pour le roi, on cache la chose. On enlève ça. On écrit que les bonnes choses. Et On écrit des choses qui ne sont pas exactes, des choses contradictoires. Chez les Goyim, surtout les rois, les annales des rois sont contradictoires. Lui dit que c'était l'année telle et telle, lui dit que c'était l'année telle et telle, lui était telle et telle. Ils avaient plein, parce que c'est oui dire, c'est les écrivains, c'est pas obligé d'être vrai. Personne ne les oblige de dire la vérité. Le Tanakh, ça c'est la source la plus sûre historiquement. Ça c'est jusqu'à la fin des Kitvei Kodesh. Maintenant, nous allons aborder l'époque après les prophètes. Alors, ce que je vais vous raconter maintenant, l'histoire à partir de maintenant, sur quoi je vais m'appuyer, ça y est, le Tanakh, il est fini avec un Sheknes Agdola. Et nous voulons connaître l'histoire du deuxième Beit HaMikdash, mais il n'y a pas de Kitvei Kodesh. Nous allons faire quoi? Sur quoi nous allons nous appuyer? Sur le mémoire du peuple juif. C'est vrai. On a transmis des histoires de génération en génération. Et chaque génération a raconté des événements importants. Mais ça fait déjà 2400 ans. Comment notre mémoire se rappelle des choses de 2400 ans? Alors, il y a des choses qu'on se rappelle, évidemment. Mais des choses, ils étaient quand même écrits. Où ils sont écrits? Alors, la source la plus sûre que nous avons, c'est la Gemara, qui était écrite après. Et que c'est aussi une collection des transmissions que les Chachamim ont vérifiées. Mais ce n'est pas Kitvei HaKodesh. C'est-à-dire, ils n'ont pas dit que c'est écrit Beruach HaKodesh. Il peut y avoir une erreur dedans. Les histoires que la Gemara raconte sont très, 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 très sérieuses. Mais ce n'est pas Kitvei HaKodesh. Ils n'étaient pas prophètes. On peut avoir entendu une certaine tradition. Il y a d'autres qui ont entendu ces traditions autrement. Et des fois, la Gemara raconte deux, trois traditions. La Gemara raconte un événement. Il y en a qui racontaient l'événement était comme ça. Il y en a qui racontent l'événement était comme ça. Qui a raison? On ne sait plus. On ne sait plus. Il y a des gens qui ont raconté comme ça. Il y en a des gens qui ont raconté comme ça. La Gemara ne sait pas. Et nous raconte des fois les deux événements. Ce n'est pas Kitvei HaKodesh. Mais normalement, c'est des choses très, très sérieuses et très exactes. Et Chachamim, ils sont très courts. Dans la Gemara, les histoires sont toujours courtes. Pourquoi? Chachamim ne voulait pas écrire les choses longues. Toujours condensées. Avec quelques mots, il nous éclaire, il nous raconte. Et pour comprendre l'histoire à travers la Gemara, il faut être un grand érudit. Il y a des gens qui ont fait ce travail, il y a des historiens, ils ont pris toute la Gemara et génération après génération, ils ont extrait les différents passages parce que la Gemara n'est pas écrite comme un livre d'histoire tout ensemble. Il y a ici, c'est éparpillé dans tous les chasses et il faut savoir, lui, il a vécu telle époque, lui, il a vécu telle époque. Donc on étudie tous les chasses bien, on voit comment ça s'est entre qui était l'élève de qui a étudié chez qui, dans quel pays était, comment les Juifs y sont venus. Il faut être un grand chacham pour collecter de tout le chasse les événements pour la construire. Mais on peut le faire, et ça a été fait, ce travail a été fait, et ça c'est chaque Juif qui veut connaître l'histoire juive vraiment, il s'arme avec les livres d'histoire qui sont basés sur tous les midrashim et sur tous les chasses. Il y a par exemple un livre, je vous donne un livre phénoménal, très très bien, qui a été écrit en Amérique il y a 20-30 années par quelqu'un qui s'appelle Shlomo Rothenberg, que c'est son Shlomo Rothenberg, cet truc, volume, Am Olam, l'histoire du peuple juif jusqu'à la fin de la Gemara. Alors par exemple, il y en a d'autres livres bien sûr. Alors maintenant nous avons une deuxième source pour l'histoire juive. La deuxième source c'est quoi? C'est une source qui vaut moins que la Gemara et il s'appelle Flavius. Vous avez déjà entendu parler. Flavius Joseph. Donc je vais, pour ceux qui ne savent pas qui c'est, donc c'est Flavius Joseph. Alors qui c'est ce Flavius Joseph? En deux mots, c'était un juif, un Kohen, un descendant de la famille de Hashmonaïm, qui a vécu à l'époque de la destruction du deuxième Beit HaMikdash. C'est un homme génial. Il a étudié quand il était jeune. Il a étudié chez les Chachamim. Il était un peu aussi dans une secte qu'on appelle Issyim pendant 3 années. Il a écrit une biographie. Et il a écrit 3 années. Après, il est revenu. Il a fait partie des Chachamim. Et il a eu une vie très mouvementée. Que quoi? Qu'il était aussi un homme politique. Et il était nommé par Rabban Shimon ben Gamliel avant le Khorban du Beit HaMikdash, quand les Juifs ils se sont préparés pour la guerre contre les Romains. Alors Rabban Shimon ben Gamliel lui a attribué lui a attribué défendre le nord d'Eretz Israël. Et après, pendant cette guerre-là, au milieu de la guerre, il a tourné Kazakh, il est parti chez les Romains. Au début, il a dit aux Juifs, on va lutter jusqu'au dernier. Et après, il a vu que c'est perdu. Il a dit, je veux sauver ma peau. Et il est parti chez Titus. Et c'est un homme très instruit, qui connaissait des langues, qui avait une tête phénoménale. Et quand il est arrivé à Rome, alors Titus, il a dit, vous, que vous êtes un homme très instruit, écrivez-moi l'histoire du peuple juif. Je voudrais connaître l'histoire du peuple juif et cette guerre, vous m'écrivez aussi. Et il lui a dit, évidemment, vous n'allez pas, comme chaque fois, quand un roi demande à un écrivain écrire une histoire, mettez-moi pas trop méchant, c'est-à-dire non méchant, arrange un peu l'histoire. Alors lui, il écrit dans son introduction, comprend qui comprend. Tous les historiens, ils étaient payés par les rois, donc ils étaient obligés de mentir pour arranger l'honneur du roi. Mais moi, je vous dis vraiment tout, que la vérité, toute la vérité, que la vérité. Mais j'écris au solde de Titus. Donc, c'est-à-dire, comprenez que si je dis Titus, il était gentil, il ne croyait pas un mot de ce que je vous dis. Vous avez compris. Il dit, j'écris que la vérité, parce que je n'ai aucun intérêt de mentir, mais sachez que quand il s'agit de l'histoire de Titus, c'est lui qui m'oblige d'écrire l'histoire. Ça veut dire que vis-à-vis de Titus, ne me croyez pas, j'arrange. Il a arrangé un peu. Il a dit, les Juifs, ils étaient tellement méchants, Titus, ils n'avaient pas d'autre possibilité que de le détruire. Et les Juifs, vraiment, eux, ils ont foutu la pagaille pour détruire maintenant. Le pauvre Titus, il ne pouvait pas faire autrement que massacrer tous les Juifs. Ça veut dire, bon, tout le monde y comprend que ça, c'est un arrangement. Mais bon, mais à part ça, c'est Flavius, il écrit le Maasé, il a écrit en latin, toute l'histoire juive, tout le Tanakh, depuis Adam Rishon, c'est-à-dire toute la Torah, tout le Tanakh, il raconte aux Goyim, avec des Midrashim. C'est-à-dire, il suit le Chumash, il suit le Tanakh, il ajoute des Midrashim, il raconte aux Goyim toute l'histoire juive. Après, toute l'histoire de l'époque du deuxième Beth Mikdash avec beaucoup de détails. Mais il a fait une erreur. Il a fait une erreur. À un moment dans sa vie, on ne sait pas à quel moment ça a été. Est-ce que c'était quand il était en Eretz Israël ou est-ce que c'est quand il était à Rome? Il est devenu sous l'influence des Sadducéens. Les Tzedukim, ça veut dire de la maison royale des Agrippas. Ça, nous ne connaissons pas encore ces personnages. Je vous dis simplement un mot. Plus tard, nous allons nous comprendre. Le dernier roi juif de l'époque du deuxième Beth Mikdash, il s'appelait Agrippas. C'était un juif qui était plutôt voyou. Il travaillait plus que pour les Romains que pour les Juifs. Il était soumis au dictat des Romains. Et il a joué un double rôle. Et c'était la maison qui était influencée par les Sadducéens, qui étaient des politiciens, pas religieux. Et ce Agrippas était aux prisons à Rome. Et Agrippas, il a supplié Flavius, « Quand tu écris cette histoire, arrange l'histoire pour que notre famille ne soit pas trop salie. » Il a écrit beaucoup de lettres, il a dit, « Il y avait tellement beaucoup de tensions à l'époque du Beth Mikdash entre le peuple et les dirigeants. Le peuple était plutôt religieux. Beaucoup étaient très, très religieux. Les autres, ils étaient Amar Haaretz, mais toujours soumis aux Chachamim. Ils écoutaient les Chachamim. Il y avait une deuxième clique, la clique qui régnait, qui était des fois des gens gentils et des fois des gens méchants, des fois des gens archi-méchants, des assassins qui sont foutus du peuple. Et la famille de Hurdus et les derniers rois de Hashmonaïm étaient déjà des voyous. Et après toute la politique, les derniers 150 ans de Beth Amikdash étaient malheureusement dans la main de voyous. Et Agrippas faisait partie de cette famille. Il a dit à Flavius, arrange-moi l'histoire et montre un peu l'histoire que nous n'étions pas si méchants. D'accord? Hein? Lui-même, il écrit, j'ai reçu 64 lettres d'Agrippas qui m'a dit comment il faut que j'écris l'histoire. Et quand il fait les récits, on voit des contradictions dans Flavius. Des fois, il dit, tous les peuples écoutaient les Chachamim. Et les Chachamim étaient des gens gentils et tout le monde les adorait, les Chachamim. Et de l'autre côté, il dit, le peuple, c'est un peuple des casse-pieds. Et le roi, il veut être gentil avec eux. Mais le peuple, il ne comprend pas la gentillesse des rois et des régents. Et après, il raconte. Le roi, il a pété un plan, il était énervé, il est allé massacrer 10 000 juifs, ils ont pendu vivre sans chachamim. Alors, si le peuple, il est gentil et le peuple, il est avec les chachamim, le roi, il pend 800. Donc, c'est le roi, il est méchant. Donc, il écrit des fois qu'ils étaient méchants. Ça veut dire qu'il y a une contradiction, Flavius. Deux fois, il voulait faire plaisir à Agrippa pour arranger l'histoire. Et des fois, c'était trop. Quand c'était trop, il était obligé de dire, en vérité, c'est des voyous. De temps en temps, il dit, en vérité, c'est un grand voyou. Rudo, c'est un grand voyou. Agrippa, c'est un voyou. Mais il voulait faire du bien, mais ça ne marchait pas parce qu'il était soumis. Il avait du mal à se situer. Donc, il y a des moments où il suit les annales des écrivains de la famille royale. Et des fois, il écrit lui-même ce que le peuple pense. Et alors, ça c'est un peu la contradiction. Mais grosso modo, les événements qu'il raconte sont des événements qui sont justes. C'est un homme très, très, très exact qui rapporte des événements et les années, même si pas toujours, des fois, on ne comprend pas très bien ça, comment ça fonctionne ici. Mais en grande majorité, il donne une image très, très claire. Il n'y a pas un écrivain de l'Antiquité tellement clair, en tout cas ce qui s'est passé en Eretz Israël, que Flavius. Et même les goyim autour, les goyim qui écrivaient aussi l'histoire, on trouve beaucoup de choses que les écrivains qui correspondent exactement à ce que Flavius raconte. Et beaucoup de choses qu'il raconte sont marquées dans la Gemara aussi. Presque la même chose, des fois exactement la même chose. Des événements que dans la Gemara sont avec 10 mots, lui il fait de ça 3 pages avec tous les détails. La Gemara fait une allusion de quelques mots. On voit que ça correspond à ce que Flavius raconte.
Donc il était addict à la fin?
Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il était à la fin. Il était un juif religieux. Il était très érudit. Et il y en a qui disent qu'il était un traître parce qu'il est parti chez les Romains. Il y en a qui disent que ce n'est pas un traîtrise, c'est intelligence. Quand on va se faire massacrer, mieux vaut aller chez les ennemis pour survivre. C'est de l'intelligence.
Ah, mais il était juif,
c'est vrai? S'il était juif?
Oui,
c'est un juif religieux. C'est un Kohen. C'est un juif religieux. Il faisait partie des familles. Maintenant, exactement comment il a vécu à Rome et qui l'a fréquenté là-bas, est-ce qu'il a fréquenté la communauté de Rome ou pas? Alors, ça, je ne sais pas, ça, je ne peux pas dire. Il y a peut-être un peu un flou sur la fin de sa vie. Il a écrit un autre livre qui s'appelle Contrap. Il a écrit plusieurs livres. Un livre, le livre le plus connu de lui, il a écrit en gros 3 livres. Un, il s'appelle Antiquité. Antiquité. Oui, c'est quoi Antiquité? C'est toute l'histoire du peuple juif jusqu'à 100 ans avant le Korban du Beth Amikdash. Après, il a écrit un livre qui s'appelle Les guerres des Juifs. Les guerres des Juifs. Ça, c'est la guerre avant et pendant la destruction du Beth Amikdash. Alors ça, il faut savoir, il y a beaucoup de sang qui coule ici. Mais ici, dans cette guerre des Juifs, il faut savoir... Il raconte plus la vie dans la cour royale que la vie du peuple. La cour royale était pourrie. Depuis Hurdus, avant Hurdus, Antipater, Hurdus, Agrippas, c'était des voyous. Des juifs pas religieux qui prenaient des goyotes, qui faisaient des avérotes avec des femmes, des voleurs, des assassins. C'est une bande d'abrutis. Et ce Flavius... Il raconte en 1000 détails qu'est-ce qui s'est passé. Et cette femme, elle est partie vivre avec son beau-frère qui a fait znout avec elle, comme un roman goy. Et Hurdus, il leur a coupé la tête. Après, il a empoisonné sa mère. Et après, ils ont empoisonné son fils. Après, il y avait une guerre. Et ce goy, il est venu. Il voulait prendre sa fille et sa sœur. À quoi ça nous intéresse? La Flavius, il est rentré dans une, je ne sais pas quoi. Il racontait la cour. Peut-être il pensait que c'est important que les gens ils connaissent toute la magouille et tout le truc de ce cour royal. Et il oublie un peu de raconter le peuple, la vie du peuple. Quoi?
C'est vrai?
Probablement c'est vrai.
Juste Hurdus, c'est les rois de Romains ou des Juifs?
Hurdus était un esclave de Hashmonaïm qui a pris le pouvoir et que les Romains ont drivé. Et un fou furieux, un schizophrène, ça c'est un machloque de ce qu'il était schizophrène, Flavius a fait une grande discussion psychologique sur est-ce qu'il était schizophrène ou est-ce que simplement il cherchait ses intérêts. Quand il était gentil, c'est parce que ça l'a arrangé d'être gentil. Quand il était méchant, parce que ça l'a arrangé d'être méchant. Mais c'était un assassin, un dictateur, un Staline, un fou. Ça, c'est sûr. Et les gens après lui aussi.
C'était où, en Israël?
Oui, oui, oui. Lui n'était pas religieux. Oh, tu n'es pas religieux. Il était en fâché avec le peuple, mais le peuple ne pouvait pas faire autrement. Donc, il y avait des histoires avec les Chachamim, avec Urdus Lagman. On raconte aussi Urdus, le gangster. Ça, c'était le drame qui s'est passé 100 années avant la forêt de Beth-Midrash. Urdus est un contemporain de Hillel et Shammai. D'ailleurs, Shammai lui a dit qu'il va devenir le roi. Il a dit, Baruch HaKodesh, malheureusement, Dieu t'a choisi comme roi et tu vas massacrer les Juifs. Mais voilà, c'est comme ça que c'est décidé. Alors, en tout cas, Flavius, il a raconté plus ce qui s'est passé au palais royal. Mais en tout cas, grosso modo, son livre, il est d'une importance capitale. Parce qu'il nous raconte, depuis la construction du deuxième Mikdash, c'est-à-dire, il nous raconte tout d'Adam Rishon, mais jusqu'à la fin, on n'a pas besoin de livre de Flavius, parce qu'on a la Tanakh. Jusqu'à la fin de l'époque de Tanakh, lui, il a écrit pour le goyim en latin. Je n'ai pas besoin de livre, on a la Tanakh. Il raconte la Tanakh et la Gemara comme nous avons. Donc, on n'a pas besoin de lui jusqu'à ce moment-là. Mais à partir de Kitu HaKodesh n'existe plus, nous avons que ce que la Gemara nous raconte, éparpillé dans le chasse. Et nous avons le livre de Flavius, qui est une source, un trésor de sources de connaissances. Hein? On n'a pas besoin de jurer confiance à Flavius. Il peut... Normalement, il n'avait pas l'intérêt de mentir. Il était honnête. Il était honnête. Il n'avait pas l'intérêt de mentir. Il raconte les choses telles qu'il a entendues. Mais des fois, les sources qu'il a entendues peut-être tronquées. Il n'avait pas Ruach HaKodesh. Il raconte ce que les gens racontaient. Des fois sous angle des juifs, bien. Et des fois sous angle des gouverneurs tordus. Ça dépend comment on regarde. Mais il raconte les événements. Normalement, les choses, pas les interprétations, les choses telles qu'elles, normalement, ils ne sont pas falsifiées. On sent, vous allez me dire, je n'ai pas de preuves, mais on sent que c'est juste et ça correspond à ce que la loi nous raconte. C'est, normalement, les récits sont justes. Oui, qu'est-ce que vous dites?
Est-ce que les Midrashim sont avant la Gemara ou après la Gemara?
Les Midrashim, il y a avant la Gemara, c'est-à-dire, les Midrashim, ça a été dit oralement. Tout était transmis oralement. Et après, ça a été écrit à un certain moment. Il y a des Midrashim qui étaient écrits à l'époque des Tanaïm. Il y a des Midrashim qui étaient écrits à l'époque des Amoraïm, des premiers Amoraïm. Il y a des Midrashim qui étaient écrits à la fin de l'époque des Amoraïm. Maintenant, il faut savoir quelque chose. La Torah orale, normalement, ne devrait pas être écrite. Écrit, on a le droit d'écrire que la Torah écrite. Mettez-vous ici. Normalement, la Torah doit être enseignée. Ce qui est écrit, écrit. Ce qui est oral doit être transmis oral. Mais des fois, quelqu'un peut oublier une halakha. Alors, Chachamim, ils ont écrit en cachette, mais pas publié. C'est-à-dire, chaque Chacham, que pendant 2 heures, il se casse la tête. Quelle est la halakha dans ce cas-là? Il avait des preuves, il a fait un pilpoul, c'est super, donc c'est cachère. C'est pas soul, etc. Mais j'ai peur d'oublier. Donc, il prend un petit papier, il est écrit. J'ai analysé telle et telle chose, la halakha comme ça. Mais il n'a pas le droit de le publier parce que la Torah doit être transmise oralement. Pas écrite oralement, il faut qu'un maître, une enseigne, il forme l'élève. Mais pour ne pas oublier, ils avaient des papiers. Donc ça, on appelle Megillat Setarim. À un moment, les Chachamim, ils ont vu que les Juifs partent en exil et on a peur que la Torah orale sera oubliée. Donc on a dit, il faut écrire la Torah orale. Au moins, le condensé de la Torah orale, on doit mettre sur papier pour que chaque juif, il peut avoir au moins le condensé de la Torah orale pour ne pas qu'elle soit oubliée. Donc, c'est Rabbein Akadosh. Il a décidé d'écrire les Mishnayot et les Braithot. Et après 4 siècles après, Ravashi, il a décidé d'écrire la chasse. Avec tous les Chachamim ensemble, ils ont écrit la chasse. Quoi? Je n'ai pas entendu. D'où il savait, parce qu'il y a un homme très intelligent qui s'appelait David HaMelech. Il a écrit dans Tehillim « Et la asot l'Hashem heferu toratecha ». Voilà. Et on peut l'appliquer, mais on n'a pas le droit de l'appliquer que quand on est tous les Chachamim ensemble, ils décident, il y a des moments où on fait tort à la Torah pour sauver la Torah. De la même façon que quoi? Est-ce qu'on a le droit de couper les pieds d'un homme? Hein? Alors comment ça se fait que des fois vous pouvez aller à l'hôpital et vous voyez un chirurgien en train d'amputer les pieds de quelqu'un? C'est parce qu'il est infecté, parce qu'il y a une infection et l'homme il va mourir, donc on est obligé de couper le pied pour sauver la personne. Alors chacun il peut couper le pied de l'autre, je veux dire c'est pour son bien. Alors je vais couper votre pied, je vous coupe. Hein, c'est quoi? Non, c'est pas toi, c'est le chirurgien après d'avoir bien analysé.
Oui. Sur une secte dérivée du judaïsme.
Ouais.
Et il disait qu'il se baptisait un peu, c'était être.
Évidemment, évidemment.
Non, mais je me suis dit, s'il se base sur des trucs comme ça, enfin, il y en a plein qui peuvent tomber.
C'est ça que je dis. C'est ça que je dis, que si moi j'ai besoin, vous savez, j'ai très faim. Quand j'ai très faim, je veux manger de la viande, je coupe les pieds de quelqu'un et je m'appuie sur le pasouk que quand j'ai faim, pour ma survie, j'ai le droit de couper les pieds de quelqu'un et manger. Parce que je suis trop paresseux pour aller chercher un pizza.
Mais maintenant, comment déterminer si c'est bien ou c'est pas bien?
Sur ça, il y a une Torah, il y a des chachamim qui connaissent les règles. Il faut étudier, il faut être un érudit pour comprendre dans cette situation. Les chachamim, ils se sont réunis, ils ont dit dans notre situation que la Torah risque d'être oubliée, c'est sûrement la volonté d'Hachem qu'on transgresse cette avéra d'écrire et nous allons écrire la Torah orale. La Torah orale, nous allons écrire, c'est la volonté d'Hachem dans cette situation. Mais Chachayim, ensemble, ils ont évalué, ça c'est maintenant la volonté d'Hachem, ça on peut faire. Comme un chirurgien, il y en a deux, trois chirurgiens ensemble, ils décident, oui, il faut couper le pied maintenant de ce monsieur. Si ce n'est pas bien analysé le truc, c'est un crime, et dans cette situation, c'est bien une mitzvah. Oui, pikuach nefesh, c'est mitzvah. Mettons un pikuach nefesh de la Torah risque d'être oubliée. Dans ce cas-là, mais chaque abruti, il vient et il dit, moi, je vais faire un discours Shabbat. Ah, on n'entend pas très bien parce qu'il y a 1000 personnes. Je vais prendre un microphone. Et je vais dire, pour que la Torah ne sera pas oubliée, je vais prendre le microphone Shabbat. Eh bien, c'est un mechalel Shabbat, c'est un libéral. Parce que la Torah, on n'a pas le droit de faire chilul Shabbat pour faire un shiur. Et s'il s'agit de l'interdiction d'écrire, elle est permise au moment qu'il y a un risque que la Torah sera oubliée. Bon, alors, donc ça c'est, mettons, des midrashim aussi, c'était écrit à différentes époques. Quand les Chachamim ont décidé qu'il y a un risque d'oubli. Alors, hein? Maintenant, est-ce que vous avez reçu les feuilles? Ah, vous n'avez pas tous publié? Aïe, 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 il faut faire un mur de Berlin comme ça aussi. C'est pathologique. Peut-être vous mettez là-bas. Hein? Est-ce que tout le monde il a la feuille? Hein? Vous avez? Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est les mêmes choses. Alors, chut. Bon, regardez. Je vais lire ici un peu ces feuilles et nous allons aller à fur et à mesure avancer. D'abord, je vais dire une petite introduction encore. Comment la Torah est écrite? En quelle langue et en quelle écriture? Ouais. Comment Moshe Rabbeinu a écrit la Torah? En quelle langue et quelle écriture? En latin ou en chinois? La Shona Kodesh. Et quelle écriture ABC? Non. Comme nous l'avons, le Aleph, le Bet, le Gimel, etc. Oui. Maintenant, écoutez bien. À l'époque du premier Bet Amikdash, il y avait des Juifs, ils voulaient écrire la Sefer Torah vite. Quand on écrit un Sefer Torah comme nous l'avons, est-ce que vous avez déjà vu un Sofer écrire un Sefer Torah? Un Gimel, comment on écrit un Gimel? Vous savez comment on écrit un gimel dans la Sefer Torah? C'est un art. Comment on appelle ça en français? C'est, comment s'appelle cet art d'écrire? Calligraphie. Un Sefer Torah, c'est la calligraphie. Un gimel, on écrit comme ça. Ça, c'est un gimel. Et chaque détail a une signification profonde. La tête du gimel, où il y a une couronne dessus. Après, il y a le pied. Après, il y a un pied qui est levé. Après, le dalet. Oui? Alors, ça, c'est un dalet. Je vous donne, par exemple, je vous donne un petit... la Gemara raconte, pour qu'est-ce qui signifie le Gimel? Il a un pied levé comme ça. Gimel, c'est gomel. Le mot gimel veut dire gomel. Gmilut chassadim. On est gentil avec l'autre. Dalet, ça vient de quel mot? Dal, ça veut dire un pauvre. Quand tu fais gmilut chassadim, il faut que le riche qui fait gmilut chassadim, il court derrière le pauvre. Oui. Et pourquoi le pied du dalet, il est ici, il n'est pas l'autre côté? Parce que ça, c'est le dos. Le riche, il doit donner l'argent derrière. Il ne faut pas lui regarder le visage parce que sinon, il a honte. Et pourquoi le pied du dalet, il est un peu vert derrière? Parce qu'il faut quand même qu'il fait comme ça qu'on lui donne. C'est-à-dire, si le riche, il court derrière, je vais vous donner. Et le pauvre, il dit, je ne veux pas vous voir. Et il se sauve. Attends, je vais te courir 2 kilomètres pour te donner. Mets-moi la main, comme ça, je te donne. Il faut que le pauvre donne un petit coup de main pour qu'on lui donne. Donc, le pauvre, rien, frappe à la porte, donnez-moi quelque chose. Alors, chaque détail de chaque lettre a une signification. Il y a beaucoup de secrets dedans. Autour de Rabbi Akiva. Mais ça, c'est la calligraphie. Combien de temps un sofer il a besoin pour écrire une belle page de Sefer Torah? Ça lui prend des heures. Alors, quand les gens ils veulent vite écrire pour étudier, aujourd'hui, on a quoi? On a l'imprimerie. Ça y est, on a imprimé. Eux, ils n'avaient pas d'imprimante. Et chaque enfant, il voulait étudier la Torah. Donc, chaque rédin voulait étudier. Et s'il faut un calligraphe, ça coûte 30 000 euros pour acheter un Sefer Torah. Il y en a un Richard dans la ville qui peut se permettre. Donc les gens, ils ont fait une écriture qui est vite. Comment on appelle ça? Ivri. Écriture ivri. Ça existe encore aujourd'hui. Si vous trouvez la vieille écriture du Proche-Orient, hein? Dans les manuscrits, vous avez des trucs comme ça. L'écriture de Rashi, ce n'est pas Rashi qui a inventé.
C'est pas Rashi?
Pas du tout. C'est une écriture qui était connue par chez tout le Proche-Orient. C'était une écriture qui ressemble à l'hébreu, que Chachamim ont déformé pour ne pas utiliser le Lashon HaKodesh qui est pour de Kedusha. Alors, parce que ce n'est pas Torah chez Birtav. Écoutez bien. Écoutez bien. Je vais vous dire quelque chose, des choses importantes. L'écriture, Moshe Rabbeinu écrit la Torah comme ça. Et ça, c'est une écriture qui est difficile, qui prend beaucoup de temps, donc ça coûte d'argent. Et elle a un kedusha parce que chaque lettre correspond à beaucoup de sodot. À l'époque du premier Beit Hamikdash, les Juifs ils voulaient écrire des Sefer Torah vite écrits. Donc, ils ont pris une autre écriture. Le Shin, il est comme ça. Voilà, comme ça. On fait vite, comme ça. Fait. Et on continue. Et les Noun, comme ça. Et les riches comme ça. Quoi? Et il faut dire que oui. C'était une écriture vite, comme aujourd'hui cursif. On écrit vite. Voilà. Mais les Sefer Torah Hashuvim, la Sefer Torah dans le Beit Hamikdash était écrite comme ça. Si un sofer, il y a des gens Hashuvim, dont les Bat Dinim, les rois, des choses importantes, on écrivait toujours, bien sûr, l'écriture de Moshe Rabbeinu. Mais le simple du peuple, il s'est facilité les choses, ils écrivaient ça, on appelle ça Ktav Ivri. Ktav Ivri. Maintenant, les Juifs sont partis en exil à Babel. Quand ils sont partis à Babel, quelle était la langue du Proche-Orient? La langue la plus parlée en Perse, en Turquie, en Syrie, en Arabie, partout, c'était l'araméen, Aram. Aram, c'était une immense... Non, Aram, ça s'écrit comme ça... Aram, aujourd'hui, c'est l'Arménie. Moi, j'avais un grand-père qui était aussi arménien. Vous l'avez connu, mon grand-père?
Abraham,
non. Non, j'avais un grand-père, un arménien. Il s'appelait Monsieur Leblanc.
Lavan.
Lavan ha-Arami. Lavan ha-Arami. Vous aussi, vous avez un grand-père. Alors, ça, c'est l'Arménie. Aujourd'hui, l'Arménie, c'est un petit pays. Mais le peuple... La langue arménienne, araméen, c'est une langue, c'était la plus grande langue de tout le Proche-Orient. Alors les Juifs, ils ont aussi appris cette langue. Les Juifs, quand ils sont partis en Perse, ils sont partis en Babel. Alors, ils ont appris l'araméen et encore beaucoup d'autres langues. Quand les Juifs sont revenus en Eretz Israël, il y a des Juifs qui ne savaient plus parler l'hébreu. Il y en a qui savaient parler moitié hébreu, moitié araméen, trois quarts araméen. Et dans l'araméen, il y a différents dialectes. Il y a les différents syriens, il y a les dialectes babyloniens. Après, ça donne un dialecte Yerushalayim. Et le simple, il parlait l'araméen. Et les chachamim parlaient la Shona Kodesh. Nimtza que le simple du peuple et les chachamim ne parlaient pas la même langue, mais même si c'est des familles propres. Des trucs. Les chachamim, entre eux, ils discutaient souvent en Lashon HaKodesh, mais aussi en araméen, aussi les deux. Le simple du peuple, ils ne connaissaient que l'araméen. Donc maintenant, à Ezra Sofer, il a dit, nous allons écrire la Sefer Torah à partir de maintenant. Quelle langue? Il a demandé aux Juifs, vous voulez que la Torah sera écrite en Lashon HaKodesh ou dans ce langage ivri? Vous voulez qu'on enseigne la Torah en Lashon HaKodesh ou en araméen? Qu'est-ce que vous voulez? Alors, qu'est-ce que le peuple a choisi? Il a dit au peuple, vous pouvez choisir. Vous pouvez choisir. Alors, le peuple a dit, nous voulons que l'écriture sera Lashon HaKodesh. Ça veut dire ce que nous avons aujourd'hui. Et nous voulons Ktav, la langue hébreu, et Ktav de Kodesh. Alors, donc, Israël a décidé, à partir de maintenant, tous les Sifrei Torot ne vont plus être écrits avec ces ktav comme ça, des trucs. On écrit comme nous écrivons. Et en hébreu. Mais il y a des gens qui ne connaissent pas l'hébreu. Donc, il faut traduire la Torah en araméen, Shabbat matin. Donc, chaque Shabbat matin, on va lire comme chez nous, Bereshit, on lit Bereshit. Donc, il y a les lecteurs qui devaient connaître la Shana Kodesh. Et on lisait en hébreu. Et on voulait que le peuple apprenne l'hébreu. Mais comme il y a des maratsim qui n'apprennent pas l'hébreu, donc il y a un traducteur, il traduisait en araméen. Est-ce que vous étiez déjà dans un tribunal où on écrit un guet? Hein? J'espère que vous n'êtes pas obligé de passer par là-bas, parce que ce n'est pas un bon truc. Mieux vaut se marier que divorcer. Alors, maintenant, quand on divorce, le guet, il est écrit moitié en hébreu, moitié en araméen. Alors, comment le guet, c'est le divorce, comment il s'appelle dans la Torah? La Ktuva, elle est aussi un peu, ouais. Alors, comment le get, il est écrit dans le Torah? Sefer Keritut. Oui? Sefer Keritut. Où c'est marqué dans la Torah? Vayem lotin sechen menaf. Alors, Katav la Sefer Keritut. Il écrit un document de divorce. Sefer, c'est quoi Sefer? Un livre, un document. Keritut veut dire de séparation. Ça veut dire, on se sépare. Tu n'es plus ma femme, on se sépare. Alors, comment ça se traduit en araméen? Il y a trois catégories d'araméens, le Yerushalmi, le Syrien et le Babylonien. Chez un s'appelle Igeret. Vous savez qu'est-ce que c'est Igeret?
Une lettre.
Une lettre. Igeret Shevukin. Une lettre d'abandon. Il y a Get Peturin. Un Get de séparation. Et il y a Igeret Shevukin, Get Peturin et... Il y a une troisième expression en araméen, j'ai oublié. Bon, il y a un troisième. Alors, dans le guet, toutes ces traductions du mot Sefer Keritut, ils sont marqués dans le guet.
Et aujourd'hui, on doit faire
Eh bien, les connaisseurs, ils connaissent le Targum.
Mais pourquoi
les connaisseurs, ils pigent. Dans le Targum, il y a des finesses dedans, il y a des fois des explications. En tout cas, on peut faire Chumash Rashi. Si on fait Chumash Rashi, si on peut faire Chumash avec Rashi ou Chumash avec Onkelos, mieux vaut faire Chumash avec Rashi. Chumash Onkelos, c'est pour les connaisseurs de l'araméen.
Alors, l'araméen, c'était la langue des Arabes.
Non, les Arabes, ils avaient l'arabe. Non, ça, c'est l'arabe. Ils sont tous en famille. L'araméen, l'hébreu et l'arabe sont en famille. On les appelle les langues sémites. Beaucoup des mots sont les mêmes. En araméen, en hébreu et en truc. Alors, bon. Oui.
Là, nous, quand on écrit l'hébreu, c'est pas, ça ressemble au Lashon HaKodesh, mais c'est pas, il n'y a pas tous les détails du...
Du chumash?
Oui.
Oui, on fait. Alors, c'est pour ça que j'ai dit. Cette écriture de la Sefer Torah, elle a une grande kedusha. écrire comme ça. Quand on écrit un chèque ou qu'on écrit d'ibrechol, un journal, il ne faut pas utiliser ça. Le Rambam dit, cette écriture, il faut la réserver pour la Sefer Torah, pour être filée les mezuzot. Quand tu veux écrire en hébreu, les Juifs, ils ont appris d'écrire en cursif ce qu'on appelle l'écriture des Rashi ou l'écriture des, au Maroc, en Tunisie, il y a ce qu'on appelle judéo-arabe. Une écriture judéo-arabe, c'est des lettres qui ressemblent un peu au Rashi. Ça ressemble au Chumash, mais c'est un déformé. Le Rambam dit, les Juifs, ils ont déformé les écritures pour ne pas se comparer au Sifré, au Kedusha. C'est pour ça qu'on n'écrit pas ce truc pour des Divrechol. Et Rashi aussi, on a imprimé parce que pour ne pas lui donner la même importance que la Gemara. La Gemara, après, on a imprimé en langue presque comme le Chumash. Parce que c'est tous les peuples écrivaient Torah Shebaalpé avec une écriture un peu différente pour respecter la Kedusha. Il y a des gens qui, quand ils invitent les gens pour leur mariage, ils écrivent une écriture comme ça. Le Rambam me dit, c'est pas bon. Tu invites ton copain pour ta copine pour un mariage, n'utilise pas l'écriture de Sefer Torah. Le Rambam me dit qu'il ne faut pas le faire. Quoi?
Pour apprendre aux enfants.
Pour apprendre aux enfants, oui.
Même si on écrit pareil, ils sont
des bourreaux. On fait à peu près. On a la coutume maintenant de... On enlève le truc, on fait presque comme... Bon. Alors, où nous sommes? Alors, vous avez tous... Est-ce que tout le monde, il a les feuilles? Alors, je commence à lire maintenant dans l'ordre. Hein. Chut. Ce qui est écrit, ce sont des mots-clés. C'est-à-dire, moi, je vous ai donné oralement une explication sur beaucoup de choses qui sont marquées ici. Ça, c'est pour que vous vous rappelez les mots-clés de la chose. Alors, Anche Knesset Agdola, les hommes de la grande assemblée, donc ils étaient son Chachamim. Alors, il y a le Sefer Ezra Nechemia qui parle de ça. Sof Hanivim. Et eux, ils étaient la fin de l'époque des prophètes. Ke'en Hador Raoui Lekach, parce que la future génération ne le mérite pas. Pourquoi les prophètes ont arrêté d'exister à l'époque du deuxième Beth Amikdash? C'est parce que les générations n'ont pas eu le mérite. Pour mériter, pour avoir un prophète, il faut le mériter. Ke'en Hador Raoui Lekach. À l'époque du deuxième Beth Amikdash, il y avait une espèce d'écho. La vraie prophétie n'existait pas, mais il existe une demi-prophétie qu'on appelle un écho. C'est comme je parle à un mur et après ça revient. Ce n'est pas très clair. Alors l'Agman nous raconte exceptionnellement, à l'époque du deuxième Beth Amikdash, les Chachamim, ils ont entendu une voix du ciel qui leur a inspiré d'agir. C'est un demi-prophète. Une espèce de demi-prophétie. Oui? Orim et Thumim n'existait plus. C'est le prophète Yirmiya Navi avec le roi Yoshia Melech. Avant la destruction du Mikdash, ils ont décidé pour que le Orim et Thumim ne tombe pas dans les mains de Nebuchadnezzar. Il va les détruire. C'est Moshe Rabbeinu qui a écrit. Et alors, ils ont caché sous le Beth Amikdash. Il y a Machloket, ils ont mis sous le Beth Amikdash ou ils ont amené à Babylonie. Mais d'après la majorité des Chachamim, c'est sous le Beth Amikdash, il y a des tunnels où ils ont mis la Sefer Torah de Moshe, où ils ont mis les Luchot Abrit, où ils ont mis le truc de Man, et ils ont caché dedans. Quand Magie revient, il va nous faire sortir, il va nous montrer les Luchot Abrit, ce sera extraordinaire. Le jour qu'on verra les Luchot cassés, les Luchot trucs, voilà, ils vont ouvrir les yeux, les gens. Alors, il ne faut pas les sortir aujourd'hui, parce que si le Goyim va ça, ils vont tout de suite les casser. Alors, si c'est cassable, je ne sais pas. Alors, וחתמו כתבי הקודש. Ils ont scellé, ils ont terminé le כתבי הקודש. בבית הראשון, à l'époque du premier בית המקדש, נכתבו ספרי התורה בלשון הקודש וכתב עברי. La majorité des ספרי תורות, ils étaient écrits en לשון הקודש, ou בכתב עברי, ça c'est cette écriture facile à écrire. ועזרא הציע להם הלשון והכתב. עזרא, il a proposé aux Juifs, vous pouvez choisir quelle langue, vous pouvez choisir quelle écriture. Ou Bacharou, les Juifs, ils ont choisi Bektav Ashurit. Alors, maintenant, il y a ici un chidouche. Écoutez bien. Notre écriture, cette écriture de Sefer Torah, on appelle Ktav Ashurit. L'écriture Ashurit. Pourquoi il s'appelle Ashurit? Pourquoi il s'appelle... Hein? Il existait un empire Ashur. La Syrie, la grande Syrie s'appelait Ashur. Pourquoi il s'appelle Ashurit? Alors, d'après un avis, c'est parce que les Juifs sont partis avant de partir à Babel, ils sont partis à Ashur, les 10 tribus, après à Babel, après ils sont revenus avec Ezra. Et à partir de ce moment-là, Ezra, il a dit, vous voulez quelle écriture? Ils ont choisi l'écriture de Moshe Rabbeinu. Et on a commencé à écrire à partir qu'on est revenu de Ashur. Donc, on appelle Ktav Ashurit. L'écriture qu'on a décidée après d'être revenu de l'exil de Ashur. Une autre explication, Ashur, ça veut dire heureux. Comme Osher, heureux, l'écriture heureuse. C'est la plus belle écriture, celle que Moshe Rabbeinu a écrite, et celle qui contient tous les secrets, l'écriture heureuse. Alors, la Shona Kodesh. Les tefillim et mezuzot, on a toujours écrit avec cette écriture. Ezra, il a instauré qu'on traduit la Torah en aramite. Alors ici, il faut bien comprendre. Qui a instauré l'écriture? Qui a instauré la lecture de la Torah? On lit chaque Shabbat la Torah. On lit chaque lundi et jeudi. Hein? C'est Moshe qui a instauré. Quoi? Voilà. Il ne faut pas rester 3 jours sans étude de la Torah. Donc, Moshe Rabbeinu, il a instauré. Seulement, Moshe Rabbeinu nous dit minimum 3 psukim. On appelle un Kohen, fait un pasuk. On appelle un Lévi, fait un pasuk. On appelle Israël, fait un pasuk. Ezra, il a dit, il faut étudier un peu plus. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus des prophètes. À partir de maintenant, il faut plus étudier. Quand on a un prophète, même s'il étudie moins, il te remet en place. Quand il n'y a pas de prophète, il faut plus étudier. Donc, il a dit, le Kohen fait 3 psukim. Le Lévi fait 3 psukim, l'Israël fait 3 psukim, au moins 9 psukim. Alors après, il a fait 10 psukim parce qu'il y a minyan 10, alors on fait toujours 10 psukim minimum. Alors, ça c'est une instauration qu'Israël a fait. Deuxième instauration, il faut la traduire en araméen. Alors, quoi?
C'est Moshe qui avait dit qu'il ne fallait pas rester plus de 3 jours.
Oui, oui. C'est marqué dans Chumash. Les Juifs, ils voyageaient. Ils voyageaient. Et ils ne trouvaient pas de l'eau, 3 jours sans eau, ils croyaient mourir. C'est dans un sens double. Sans Torah, 3 jours, c'est le Neshama risque de mourir. Alors, Veyesh Shalosh, alors, Vetiken Shitar, comment écrit la Torah Barmit? Il a instauré qu'on traduit la Torah en araméen. Alors, Ezra Sofer lui-même, il a lu la Torah devant tous les Juifs. Tous les Juifs étaient réunis à Yerushalayim, un fameux Rosh Hashanah. Il a réuni tous les Juifs. Dans les premières années, tous les Juifs venaient Pessah, Sukkot, à Yerushalayim. Ça, c'est marqué dans Sefer Ezra. Il a pris la Sefer Torah dans la Heichal. Et tous les Juifs étaient autour. Et Ezra, il a lu la Torah. Et tous les Juifs, ils sont mis à pleurer et tout. C'était un grand jour comme ça d'écouter la Torah après 70 années d'absence et tout. Alors, Veyesh Shalosh dialecte aramite. Il y a 3 dialectes. Bavlit, babylonien, syrien, aramite, virushalmite. Comme par exemple le mot Sefer Kridut de la Torah, Sefer Teruchin. Ah voilà ici. Sefer Teruchin, le livre de divorce. Igeret Shivukim, Get Piturim, ce sont 3 dialectes. Et dans la Get, on utilise les 3 dialectes.
Ah, hein?
Quoi? Ça veut dire
que dans le terme de Bavli et
Yerushalmi,
ils
n'ont
pas la même parole?
Il y a quelques mots. 98% des mots sont les mêmes. Mais c'est un dialecte. Des fois, il y a un mot un peu différent. Dans le guet, on va être clair pour que l'autre il a compris, que l'homme et la femme ils ont compris. Donc il y a des juifs qui viennent de Syrie, il y a des juifs qui viennent de Babylonie, il y a des juifs ici. Si on ne dit pas très clair, le divorce c'est quelque chose de très important, il ne faut surtout pas qu'il y ait une erreur. Pour que tu comprends bien, on disait, vas-y, on écrit dans le guet, vas-y, c'est ton Sefer Teruchin, et Geret Shivukim, Get Piturim, et c'est resté jusqu'à aujourd'hui ce texte.
Ça existait depuis tout le temps, le divorce, ou dans la Torah
Le divorce, c'est marqué dans le Chumash. Moshe Rabbeinu écrit dans Parashat Ki Tetzé. Si vous voulez, si quelqu'un, il ne coupe tout en parents, on divorce. On peut divorcer, c'est marqué dans la Torah. C'est marqué dans le Chumash, Parashat Ki Tetzé. Vous connaissez la blague de ce qui a créé le christianisme? Hein? Vous savez que les chrétiens, ils n'ont pas le droit de se divorcer. Et si on divorce, la femme n'a pas le droit de se marier. C'est pour ça, chez eux, il y a plein d'adultères. Parce que quand ça tourne par an, on ne peut pas divorcer. Alors, on fait en cachette. C'est une catastrophe chez eux. Alors, vous savez comment c'est devenu cette histoire? Ah, vous ne connaissez pas. Leur curé, ils n'ont pas le droit de se marier chez les catholiques. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce qu'ils font en cachette. Avec des trucs, avec des enfants et tout. Parce qu'ils n'ont pas... Pourquoi ils sont devenus dingues, ces gens-là? Alors écoutez, ce qui a fait leur religion, il a écrit comme ça. Il a dit, il a fait un discours, c'est marqué chez eux dans le Nouveau Testament. Il a dit, celui qui divorce sa femme et la femme, elle se marie avec un autre, c'est de l'adultère. C'est de l'adultère. Alors, il y a quelqu'un qui est venu, les Juifs étaient autour, ils ont dit, mais monsieur, Moshe Rabbeinu, il écrit dans la Torah qu'on peut divorcer et la femme divorcée, elle peut se marier avec un autre. Pourquoi vous dites ça? Alors, il dit, oui, Moshe, il a dit ça parce qu'il a vu que vous êtes des gens tordus, parce qu'il a vu que vous avez un cœur dur, donc il ne voulait pas vous interdire trop. Mais en vérité, Dieu ne veut pas ça. Mais bon, parce que vous êtes comme ça, mais en vérité, il ne veut pas ça. En vérité, c'est adultère. Il a de la chutzpah de dire que Moshe Rabbeinu écrit ça comme si ça ne vient pas de Dieu. C'est Moshe qui écrit. Et il a de la chutzpah de dire, moi, je comprends mieux que Moshe. Alors, ils ont dit, alors d'après vous, une femme divorcée, on n'a pas le droit de se marier. Il dit, non, il ne faut pas. Alors, ils ont dit, maître, si c'est comme ça, ça donne plus envie de se marier. Parce que si on se marie, on ne peut plus jamais divorcer. Alors, on est coincé. Alors, les gens, ils ont peur de se marier. S'il y a une possibilité de divorcer, bon, alors, je me marie et j'espère que ça va aller. En principe, ça va aller. Si ça ne va pas, bon, on divorce. Mais si vous dites qu'on ne peut plus divorcer, alors plus personne ne veut se marier. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il était en difficulté. Il a répondu le premier mensonge avec un deuxième mensonge. Il a dit, en effet, mieux vaut de ne pas se marier. Il voulait défendre sa première gaffe avec une deuxième gaffe. Eh bien, c'est mieux. Je vous dis, ceux qui veulent rentrer à Gan Eden, qu'ils ne se marient pas. Ils ont dit, monsieur, c'est marqué dans la Torah qu'on peut se marier. Il dit, oui, c'est parce que vous êtes des gens faibles. Mais en vérité, le vrai Gan Eden, c'est donné aux gens qui ne se marient pas. Alors, il est plus intelligent. Qu'est-ce que ça veut donner? Leur curé, ils ont dit, moi, je veux le vrai Gan Eden. Il est le tzaddik. Mais si je veux le vrai Gan Eden, il ne faut pas se marier. Donc, ils ne se marient pas. Et comme leurs hommes, ils ne se marient pas, leur curé, alors ils font des bêtises, ils ont le guéhinnom. Et quand un curé passe à côté d'un rabbin, la femme, le rav, il a la femme, il a les enfants, il est heureux avec sa femme et ses enfants, et vendredi soir, il chante les smirotes avec toute la famille ensemble, et le curé, le célibataire, il passe à côté, il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant, il ne peut pas chanter avec qui, et pour se satisfaire, malheureusement, il fait des bêtises derrière. Il est jaloux de... Pourquoi le rabbin, il a une vie heureuse? Et moi, parce que je suis chrétien, je ne peux pas me profiter de ce monde d'une façon correcte. Alors, il est plein d'haine, hein? Parce qu'il veut être avec la majorité, parce que les Juifs étaient méprisés. Lui, il fait partie du peuple qui est truc. Et il a promis qu'il est le curé. Et après, il souffre de ça. Après, ils ont plein d'haine.
C'est pour ça que là, ils sont en train de remettre
en question. Oui, c'est parce qu'il y a tellement beaucoup de scandales. Parce que les gens, aujourd'hui, ils parlent. Et les gens, ils trouvent toujours plus et plus des curés qui font des bêtises. Ils ont honte et tout. Bon, mais...
Il y a plus de chrétiens.
Hein? Ah, les Arabes, ils n'ont jamais dit qu'il ne faut pas se marier. Leur prophète se mariait pareil avec 18 femmes. Bon, alors. Quoi? Est-ce qu'ils ont l'influence? Il y a encore 1 milliard de chrétiens au monde. En France, ce n'est pas trop beaucoup. Mais dans le monde, il y a encore 1 milliard. Il n'y a pas 1 milliard de chrétiens. Il y a 1 milliard de chrétiens en Amérique du Sud. Bon, chez les Arabes aussi, ils ne sont pas tous des croyants. Il ne faut pas croire parce qu'on est arabe, on est forcément croyant. C'est aussi des laïcs chez eux, la moitié. Bon, je continue. Alors, on va continuer. Est-ce que quoi? Il connaît des tonnes.
Il connaît plein de trucs. Il a fait des thèses, des projets sur la Torah, sur les.
Mais sachez que tous les goyim qui étudient le judaïsme, ils étudient le judaïsme de l'extérieur et ils ne pigent pas encore. Ils peuvent connaître des choses. Je ne dis pas un goy peut connaître des choses du judaïsme, mais c'est une vision d'extérieur, pas de l'intérieur. On ne peut pas le piger bien. C'est pas seulement le judaïsme. Nous, on étudie l'hindouisme, on ne peut pas le piger si on ne vit pas dedans. C'est une vision extérieure. Bon.
Oui. Il m'a demandé mon prénom, je lui ai dit je m'appelle Michal. Alors il m'a dit c'est comme l'ange Michael. Et est-ce que vous savez pourquoi l'ange il s'appelle Michael? Je lui ai dit je ne sais pas. Il m'a dit ah, c'est bizarre, vous ne savez pas. Demandez à vos rabbins.
Parce que lui, il sait.
Apparemment, il sait, mais il ne veut pas nous dire.
Ah bon.
Il veut qu'on demande.
Ah bon.
Mais pourquoi? Il y a une raison particulière ou...
Bah, lui, il le sait, pourquoi?
Je sais pas.
Il a dit que les noms des anges, ils ont été donnés pour une raison spéciale. Oui, mais normalement, nous, on devrait changer de savoir. Surtout que lui, il le sait et que nous, on le sait pas.
Mais pas, c'est pas sûr que ce qu'eux, ils pensent qu'il y a le judaïsme, il est vrai judaïsme. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui étaient dites au nom du judaïsme, qui n'est pas le judaïsme. Il y a plein de légendes, plein de trucs. On a mis ça dans le judaïsme, mais ce n'est pas le judaïsme.
Mais
pas tout est judaïsme.
Ça, c'est vrai.
Que quoi?
Que les anges ont été nommés sur quelque chose, sur leur mission, par exemple.
Probablement, oui, c'est logique. Raphaël, c'est le grand médecin au ciel. C'est l'ange, le ministre de santé au ciel. Il s'appelle Raphaël, c'est un agent de foi, c'est logique.
Et Michael? Mais Michael, on dit qu'il a un nom spécial.
Chaque nom, il y a beaucoup.
Il y a un pasouk qui dit, devant moi, il y a Michael.
Ce n'est pas un pasouk, c'est Mahamar. Mimini Michael, Mismoli Gabriel, Milfona Auriel, Machora Raphaël, Val Roche Ishrinatkel.
Ils ont cette mission tous les jours de nous protéger, non?
Oui, oui. Gabriel, c'est Melachon Gvura, c'est le. Alors, bon. Alors, je continue. Vous avez le texte? Hasfarim. Bon, on a fini ici qui tu as Kodesh, donc je continue. Hasfarim Shiesh Lanu. Les Sfarim que nous avons pour l'époque du deuxième Beth Mikdash, après que le Tanakh est fini, Hem Makabim. Il y a un livre qui s'appelle Makabim. Flavius, il y a les livres de Flavius. Va'alfe Sipurim Beshas Umidrashim. Il y a des milliers des histoires citées dans le Shas Midrashim. Il y a encore quelques livres qui s'appellent Sfarim Chitsonim. Des Sfarim que Chachamim ne considère pas qu'ils écrivent Ruach HaKodesh. On peut les lire, mais ils n'ont pas le tampon de Chazal dessus. On ne sait pas si c'est vrai ou faux. Alors, il y a Torah Shebalpe lo nichteva. La Torah Shebalpe n'était pas écrite autrefois. Rak Chachamim rachmu la'atzmon halachot. Les Chachamim, ils ont écrit chez eux pour ne pas oublier, mais Gilat Seterim, on appelle ça les livres, les parchemins cachés qu'on n'a pas le droit de transmettre seulement pour se rappeler pour soi-même. Des moyens mnénotiques, ça s'appelle. Maintenant, Nisharu Binyanim ou Matbeot Vezichonot, mais on peut trouver encore les anciennes écritures, on peut trouver sur des pièces. Halouach, Ozer Ladat Minyan Hashanim. Maintenant, il y a quelque chose de très important quand on étudie l'histoire, c'est le louach, c'est le calendrier. Alors, le calendrier juif, il est basé à l'époque du Tanakh sur le Tanakh. Et après qu'on s'est fini le Tanakh, nous avons un calendrier exact qui a été fait par Rabbi Yossi ben Khalafta dans un livre qui s'appelle Seder Olam. Rabbi Yossi ben Khalafta était un élève de Rabbi Akiva. Son père, il s'appelait comment? Comment il s'appelait le père de Rabbi Yossi ben Khalafta?
Khalafta.
Alors, ce Khalafta, c'est un copain de Rabbi Akiva. Copain de Rabbi Akiva. Et Rabbi Yossi parlait de son père, Papa Khalafta. Il disait Abba Khalafta, mon Papa Khalafta. Alors, ce Rabbi Yossi ben Khalafta, il a écrit un petit livre qui s'appelle Seder Olam, où il marque depuis Adam Rishon jusqu'à son époque la chronologie. La chronologie des rois, etc. Et aussi à l'époque du deuxième Beth Amikdash, jusqu'à son époque, s'appelle Seder Olam, l'ordre de l'histoire du monde. Après lui, quand lui l'invita Rabbi Yossi ben Khalafta, nous avons un autre livre qui s'appelle Seder Olam Zuta, qui était écrit par un Rav qui a vécu à peu près il y a 1000 ans, qu'on appelle Rabbi Yosef Tov Elem. Rabbi Yosef Tov Elem, ça c'est son nom. Lui, il a écrit après une chronologie, un calendrier des événements importants. Nous avons un livre de chronologie qui était écrit par le Ra'avad. Le Ra'avad, c'était un Rav qui a vécu, si je ne me trompe pas, il y avait plusieurs Ra'avad, il y a trois Ra'avad. Un Ra'avad, il était à Posquières, en France. Un Ra'avad, il a vécu en Espagne. Alors, ce rabbin, je ne me rappelle pas, le rabbin, Rabbi Abraham ben David, il s'appelle. Je ne me rappelle pas s'il vient de Poskier ou de Lunel. Alors, lui, il a écrit aussi un livre d'histoire. Lui, il a vécu à peu près au 11e, 12e siècle. Je ne me rappelle pas si ce Rahavad, il a vécu en France, en Espagne. Je ne me rappelle pas. Nous avons d'autres livres historiques très courts. La lettre de Rav Shriri Gaon. C'est une lettre très importante. Rav Shriri Gaon. Alors, lui, il a vécu l'année 900 à peu près. Le 9e siècle.
C'est le fils de Rav.
Lui, il était Rav Shriri Gaon. Était Rav Hai Gaon. Il y avait Rav Hai Gaon. Je pense que Rav Hai Gaon, c'est le fils de Rav Shriri Gaon, si je ne me trompe pas. Alors, ce Rav Shriri Gaon, il a écrit une lettre aux Chachamim de Tunis, de Kirwan. Les Rabbanim qui habitaient à Tunis, ils ont demandé à Rav Shriri Gaon, qui était à Babel, racontez-nous un peu l'époque de Tanaïm à Amoraïm sur ce que nous n'avons pas quitté à Kodesh. Qui étaient les Chachamim? Comment on enseignait la Torah? Comment ça fonctionne les Shivot en Babylonie? Racontez-nous comment ils ont fait la Gemara, comment ils ont écrit. Alors lui, il a raconté tous ces événements qu'on racontait en Babel, qu'on savait Babel comment ça fonctionne. Ça, c'est une lettre d'une très grande importance. Il s'appelle Rav Shriri Gaon. Rav Shriri Gaon. Donc, Gaon. Donc, nous avons, ça c'est, donc, c'est des écrivains plus tard. Après, il y a au 15e siècle, il y a des différentes qui ont récolté l'histoire juive. Alors, en tout cas, ce qui nous concerne, l'époque du deuxième Beit Hamikdash. Donc, ce qui est important, c'est le calendrier. Rabbi Yossi Nechalaf de Sedrolam. Haïvdel ben Sfira Notre Lour Shalan ou 3760. Alors, je vous donne ici un chiffre clé pour que vous puissiez comprendre le calendrier juif. C'est un chiffre qui s'appelle 3760. Qu'est-ce qui veut dire ce chiffre? Qu'est-ce qui veut dire ce chiffre?
Ça veut dire qu'en 3760, il y a...
Voilà, ça veut dire le zéro. C'est l'année zéro chez les Goyim. Si nous voulons connaître l'année 500 chez les Goyim, ça fait quoi chez nous, chez les Juifs? On prend 3760 et on ajoute 500. Et ça, c'est le calendrier juif.
Ce qu'on a fait tout à l'heure.
Je ne me rappelle plus. Comment. C'était 3760?
Oui.
D'accord. Ouais, c'est ce chiffre-là. Alors, maintenant, on va regarder la Mishnah dans Pirkei Avot. Le premier Perek de Pirkei Avot, ça commence comme ça. Vous vous rappelez tous? Moshe kibel Torah mi Sinai, ou mesara li Yoshua. Yoshua les kenim, les kenim li Nevi'im, les Nevi'im mesura la anche Knesset Agdola. Donc, Moshe Rabbeinu a reçu la Torah, il a transmis Yoshua aux kenim, aux Nevi'im, jusqu'à maintenant, à partir d'Anshe Knesset Agdola, il y a une suite des Chachamim qui sont toujours les plus grands Chachamim jusqu'au Chorban du deuxième Beit HaMikdash. C'est les grands, les chefs de la génération, et il y a des proverbes qu'ils ont dit. Et ces proverbes qu'ils ont dit, c'est vient de Moshe Rabbeinu. Tout Pirkei Avot vient de Moshe Rabbeinu. Cependant, chaque génération, les Chachamim, ils ont mis un accent spécial sur deux choses que cette génération a besoin. Donc, les Anshe Knesset Gdola, ils ont mis l'accent sur combien de choses. Donc, il marque Mishnah, Hevo Metunim Badim, jugez lentement. Parce qu'à l'époque du premier Beit Hamikdash, les juges, ils jugeaient vite. Ils ont plaqué les affaires d'argent vite. Ce qui crée une injustice et une rébellion chez les peuples. Des juges qui sont injustes. Deux personnes, ils viennent se faire juger. Et le juge dit, tu as raison, toi tu as tort. Tu n'as qu'à payer le 100 000 euros à l'autre. Et c'est faux, il ne doit pas payer. Alors les juges sont rébellés. Alors ça crée une injustice. Et ça, c'est une des raisons pourquoi il y a le Chorban du Beit HaMikdash. Alors ils ont dit, il faut juger lentement. Et vous metunim badim. Vetiknu, je lis ici le texte. Vetiknu, ils ont instauré. Shieishvu bekol ir batedinim beyon sheni vechamishi. Que dans chaque ville, il faut qu'il y ait un tribunal. Il ne faut pas qu'il y ait des crimes qui sont impunis. Un homme qui vole, un homme qui frappe, un homme qui blesse, un homme qui on fait un crime, on fait un acte immoral, ça doit être puni. Il ne faut pas laisser que le peuple juif devienne hefker, que n'importe qui fait n'importe quoi. Donc ils étaient très à cheval, dans chaque ville instaurer les batanim, et chaque lundi et jeudi dans chaque ville, quand quelqu'un a quelque chose à réclamer, il peut réclamer. Voilà, c'est pour ça qu'on a fait ces fortorats lundi et jeudi. Comme ça, parce que ceux qui veulent aller dans une grande ville pour se faire juger, ils peuvent écouter le Kriyat Torah. Parce qu'il y a des petits villages où il n'y a pas de Sefer Torah, où il n'y a pas de Minyan. Dans ce cas-là, que Shabbat. Alors dans ce cas-là, mais quand il va dans une grande ville. Deuxième chose, Hemido Talmidim Harbe. Il faut enseigner à beaucoup d'élèves parce qu'il n'y a plus de prophètes. Donc il faut que le peuple juif se mette encore avec un effort supplémentaire à l'étude de la Torah. Vasu Siag la Torah, il faut faire des takanot, c'est-à-dire des frontières, des grillages. Il faut entourer la Torah. Ça veut dire qu'il faut protéger la Torah pour que pas n'importe qui transgresse. À l'époque du premier Beth Amikdash, on avait la Torah, mais il manquait beaucoup de choses que les gens presque ils ont fauté. À la fin, ils sont tombés dans la faute. Maintenant, nous n'avons pas des prophètes pour avertir les gens. Il faut que les gens ils s'avertissent eux-mêmes. Donc, Racham, ils ont fait beaucoup de siog autour.
Ah, c'est tout. C'est
la majorité de ceux qui sont assommés des Rabbanan, ils ont instauré. Besifro shel Nehemia. C'est marqué dans le livre de Nehemiah, ça fait partie encore de Kitu HaKodesh. C'est marqué que Asu Brit vechatmu lishmor et Torah, que tous les Juifs, ils ont fait un Brit, ils ont juré fidélité à Hashem, comme Moshe Rabbeinu au Har Sinai, comme Moshe Rabbeinu l'a fait avant de rentrer en Eretz Israël, comme Shmuel Hanavi l'a fait au moment qu'il a nommé David et Shaul Amelech. Alors, les Juifs à Yerushalayim, ils ont juré de rester religieux. Ils ont écrit un grand papier, un grand parchemin, et tous les chefs du peuple, ils ont signé dessus et tout le monde il a juré qu'on va être fidèle à la Torah. Vasu chizuk miyuchad l'shmirat haShabbat. Par exemple, ils ont interdit de faire du commerce Shabbat, malgré que la Torah n'a pas interdit le commerce. La Torah elle a interdit les 39 travaux, mais vendre des objets, ça n'est pas marqué dans la Torah. En Chikne, ce que les gens ont instauré, on ne fait pas de commerce. Lo lasot mekechamen kevedine mukze. Et on n'a pas le droit de toucher un stylo, de peur qu'on va écrire. À l'époque du premier Mikdash, on avait le droit de toucher un stylo. Il ne faut pas écrire, mais toucher un stylo, on a le droit. Business, acheter, vendre. Ou maaser perot virako. Dans la Torah, on doit prélever le maaser seulement sur du blé, sur des raisins, sur l'huile. Alors, Chachamim, ils ont instauré quoi? Ça, c'est assommer la Torah. Alors, Shmit velolisan nochrit. Ah, vous avez dit lolisan nochrit. Alors, il est marqué dans la Tanakh quand les Juifs. Oui, c'est marqué, mais la Torah. Attendez. Il est marqué dans la Torah qu'on n'a pas le droit avec une goya. Mais quand les Juifs ils étaient en exil, il y a des Juifs qui se sont mariés avec des goyotes. Certains sont mariés avec une conversion qui était comme ci, comme ça. Qui n'avait pas Torah? Non, pas Bahagar. Non, pas Hagar. Les Juifs qui sont partis en exil. Non. Non. Qui parlait, Mitzrayim? Les Juifs sont partis en exil à Babylonie, les 70 années en Babylonie. Quand les Juifs ils sont partis par Nouchanetzar, ils sont tombés en Babylonie. Il y a des Juifs qui sont mariés avec des goyotes. Et ils sont revenus à Yerushalayim, il la ramène sa française. Alors ça donnait un scandale. Qu'est-ce qui t'amène la française ici? Il dit, je la convertis. Comme il y en a aujourd'hui des gens comme ça, je la convertis. Il dit, mais c'est sérieusement converti ou c'est à la cacahuète. Alors, ils ont fait des bâtés d'inim et ceux qui n'étaient pas sérieux étaient obligés de renvoyer. Oui, mais ils ont, parce qu'il y a des gens qui transgressaient ça, donc ils ont fait attention, et spécialement de ne pas se marier avec les Shomronim. Ça, c'est encore une autre histoire. Ça, on va voir la semaine prochaine. L'histoire des Samaritains. Il y avait un peuple mal converti à l'époque du premier Mikdash. On avait parlé ça quand on avait fait les cours de... Non, Hanouka, c'est... Ça, c'est deux siècles après. Quoi? Hanouka... Quoi? Je n'ai pas entendu. Quoi? Ça, c'est après. On n'est pas encore arrivé. Vous êtes trop vite. Ça, c'est plus tard. On va arriver à ça, Alexandre. Alors, Megillat Yuchsin. Mais Gilat Yuchsin, je ne sais pas si nous avons parlé une fois, quand Ezra et Nehemiah ont construit le deuxième Beth Mikdash, ils ont demandé à tous les Kohanim de servir et chaque Kohen était obligé d'apporter son arbre généalogique qu'il descend de telle et telle personne qui était enregistrée à l'époque du premier Mikdash qui est le vrai Kohen. Depuis Aaron à Kohen, chaque Kohen a gardé un livre. Et Aaron à Kohen, il a tant des enfants. Les enfants, c'est marqué d'Ivre Yamim, des milliers de noms. Les Juifs, ils avaient des arbres de généalogie. Moi, je suis Kohen, fils David Kohen, fils d'Abraham Kohen, fils de Moshe Kohen, puis fils de Michael Kohen, fils de Truc, et ma mère, ma grand-mère, et jusqu'à Aaron à Kohen, chaque Kohen, il avait un arbre généalogique et des livres. Et quand on voulait travailler au Beth Mikdash, il fallait présenter ces livres. Au Beth Mikdash, il y avait des tonnes de milliers de livres d'arbres généalogiques de famille. Et moi, je dis, je suis Kohen, fils de Michael Kohen. Regardez dans le Beth Mikdash, c'est marqué que mon père de telle et telle ville, il est Kohen Miuchas depuis Aaron à Kohen. S'il n'avait pas cet arbre, on ne pouvait pas travailler au Beth Mikdash. Ça, c'était la coutume à l'époque du premier Beth Mikdash, du deuxième Beth Mikdash, et depuis Aaron jusqu'au Beth Mikdash. Tous les Kohen avaient besoin d'avoir un arbre généalogique. Et beaucoup de Juifs aussi avaient un arbre généalogique. Ça s'appelle Sifrei Yuchsin, les livres de généalogie. Et dans Divrei Yamim, il y a des milliers de noms, en effet, transmis. On sait, on vient de Rouven, de Shimon, de Lévi, de quel enfant de Rouven, de quel enfant de Yosef, etc. Tout dans Divrei Yamim, il y a comme ça des chefs de famille, de génération en génération, qui sont nommés. Maintenant, il y a des Kohanim qui avaient perdu leur arbre généalogique. Quand ils sont partis en Babylonie, certains ils ont perdu, c'est tombé à l'eau, on leur a volé, ils sont revenus. Il dit, je vous jure, je suis Kohen, mon père était Kohen. Il dit, tu as des témoins, amène des témoins, que tu es le père de ton fils, non, plutôt le fils de ton père. Ceux qui ont apporté des témoins, oui, je me rappelle, le père et lui, il était son grand-père, avec lui. Ah, c'était bon. Ceux qui n'avaient pas de témoins, ils n'avaient pas de papier, ils ne pouvaient pas travailler avec Amigdash. C'est marqué dans le Sefer Nehemia, va égoa lo minha, mina kehuna. Donc, ça, c'est les Mikilat Yuchsin. Eux, ils étaient obligés. Et les Lévim qui voulaient chanter. Un Lévi qui veut chanter en Israël n'était pas obligé. Mais beaucoup de Juifs faisaient attention. Pourquoi? Parce que le Kohen, pour que son fils puisse travailler, doit se marier avec une famille miyucheset. C'est-à-dire des familles où il y avait des halalim, les Kohanim ne se marient pas avec eux. Donc les familles miyuchasim aussi faisaient attention qu'il n'y a pas chez eux des halalim ou des mamzerim. Donc beaucoup, beaucoup de familles Israël aussi, ils avaient ça. Et David HaMelech, par exemple, dans son armée, David HaMelech ne nommait pas dans l'armée, et même à l'époque de la Gemara, on ne nommait pas un Gabbai Tzedaka ou un président de communauté si ce n'est pas Meyuchas. On ne mettait pas quelqu'un au Sanhedrin comme Dayan si sa famille n'est pas Meyuchas, s'il n'y a pas un arbre généalogique, il n'y a pas de Halalim et des Mamzerim et des Goïm dans sa famille. Il faut être Meyuchas. Il faut être Meyuchas. Un Halal ne peut pas. Un homme qui est Halal, c'est-à-dire un Kohen qui se marie avec une femme divorcée, l'enfant, il est halal, il ne peut pas être au Sanhedrin.
Il ne peut pas faire chef d'armée.
David HaMelech ne le prenait pas comme chef d'armée. Peut-être d'autres robes, mais David HaMelech ne les utilisait pas. Il prenait que des familles propres pour le chef d'armée. Non. Il peut enlever le cafard du bois. Le bois qu'on met sur le Mizbeach, il fallait enlever tous les cafards et tous les vers de terre. Ça, c'est moutard pour un halal. Il y avait des Kohanim halal, ça c'était aussi un avoda au Beth Amikdash. Hein? Oui, ça il a le droit de faire.
Donc ils ont tout perdu.
Non, pas tout, ça il a le droit de faire, c'est des asrout aussi. Mais le halal, il est un peu moins qu'un Israël, parce qu'un halal qui se met avec une femme, la femme devient halala. Si elle a préveuve, elle n'a pas le droit de se mettre avec un Kohen. Un halal qui se met avec une femme, sa fille aussi est halala, ne peut pas se mettre avec un Kohen. Mais un Israël normal qui se met avec une femme Israël, la fille peut se marier avec un Kohen, mais un halal, il a un défaut pour sa fille aussi.